soir, vous êtes bien sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Eh bien, ce soir, plusieurs invités, nous allons parler musique, musique jazz, avec le batteur Élie Martin Charrière. Bonsoir.
Bonsoir Agnès.
Vous allez parler de toute votre actualité qui est foisonnante. Je recevrai également Sophie Richard pour le Festival d'Anguin, la tête la première édition de ce festival inédit. Et puis ensuite Marie Jacquet qui va nous parler d'art avec une exposition Chaosmos. Voilà, tout d'abord donc place au jazz avec Élie Martin Charrière, tout jeune batteur très demandé, nouvelle génération de batteurs. Bonsoir.
Bonsoir Agnès.
Voilà, je le disais tout à l'heure, donc beaucoup d'actualités. Un concert lundi au Duc des Lombards, et puis ce fameux album est rappé. Nous allons en parler, mais peut-être tout d'abord, écoutons intro, le premier morceau de cet album, Érapé, Élie Martin Charrière. Charrière, vous êtes donc batteur, hein, batteur de jazz, je viens de le dire. Votre dernier album vient de sortir, Érapé, un album avec plusieurs musiciens, hein, vous nous en parlerez après. On vient d'écouter intro de cet album. Alors Élie, j'ai envie de dire, c'est presque un hommage à tous vos, peut-être vos guides spirituels, hein, vos guides musicaux, ce fameux morceau intro.
Spirituels et musicaux, c'est vrai, plutôt musicaux à cet endroit-là, parce que spirituellement, il y a peut-être certaines de ces influences que je n'aurais pas voulu suivre. Quand on parle de ce morceau qui commence par ce rire, qui est un hommage à Led Zeppelin, je pense pas spirituellement être très attiré par l'esprit de Led Zeppelin, mais musicalement, j'ai été énormément influencé par tous ceux que je remercie, oui, musicalement dans ce morceau.
Est-ce que, alors, vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce qu'au départ, il y a ces rires que l'on retrouve dans un morceau de Led Zeppelin.
C'est ça. Il y a une compilation de Led Zeppelin que j'ai énormément écouté quand j'étais jeune, et en fait, c'est un des rares groupes de rock qui m'a vraiment impressionné musicalement, et le batteur John Bonham. Particulièrement, et en fait ce rire, c'est un hommage au début de Whole Lotta Love, qui est une chanson très connue de Led Zeppelin et que j'ai énormément écoutée, et en fait j'avais envie de ce rire dans l'espace qui lance un morceau.
Il y a également, je crois, des influences qu'on peut retrouver sur un titre de Rihanna.
Oui, la ligne de basse alors je crois est écrite par Tame Impala, mais est utilisée sur un morceau qui s'appelle Same Old Mistakes de Rihanna, qui est sur un album que j'ai énormément écouté dans une période de ma vie où c'était vraiment ça tournait non-stop dans ma tête.
Et Sonny Rollins, pour les puristes qui vont, est-ce que par exemple des puristes pourraient reconnaître ces influences?
Ah, je pense qu'elles sont très claires. Alors finalement, le morceau de Sonny Rollins, il est pas très connu, il s'appelle Sonny Moon for Two, et il est un petit peu déformé puisqu'il est en 5 temps là au lieu d'être en 4 temps habituellement, et puis il est transformé en ligne de basse alors que normalement c'est un saxophone qui joue une mélodie, donc la mélodie se transforme en ligne de basse. Mais je pense que les puristes, là il y a plusieurs styles qui cohabitent, c'est-à-dire qu'il y a Rihanna, il y a Led Zeppelin, il y a du jazz, il y a Stevie Wonder, il y a Steve Coleman et d'autres, donc des puristes de la musique, oui.
Alors, vous êtes un spécialiste du jazz. Vous l'avez étudié au conservatoire, hein, pendant conservatoire de Paris, hein, pendant 15 ans. Vous avez joué avec le fameux, le grand saxophoniste Pierrick Pedron, Thomas Bramery aussi, le bassiste. Là, vous vous êtes, j'ai envie de dire, un peu lancé dans ce nouveau projet. Est-ce que pour vous c'est un peu quelque chose de d'inédit? Est-ce que on peut dire que c'est une musique plaisir portée par le bonheur de jouer en groupe?
Alors portée par le bonheur de jouer en groupe, ça l'est devenu progressivement, et on a fait quelques concerts récemment avec le groupe. Donc comme vous l'avez dit, l'album est sorti il y a même pas 3 mois, il est sorti mi-décembre. Et en fait, plus les concerts avancent, plus le plaisir de jouer en groupe grandit. Et c'est incroyable de justement redécouvrir la musique tous les jours. Cet album, il a été fait surtout dans ma tête. Et ensuite, il a été réalisé incroyablement bien par tous les musiciens et musiciennes de cet album. Mais à la base, c'était, oui, pour me lancer dans une aventure, faire le travail jusqu'au bout. J'avais sorti un album précédemment, mais sans le défendre sur scène, sans le défendre en radio. C'était juste un album où je voulais que ma musique puisse exister et la mettre derrière moi. Mais cette musique, je veux la jouer et je veux la défendre et la faire évoluer.
Est-ce qu'on peut dire un peu que c'est l'ère ou le monde des possibles?
C'est un monde des possibles. Je pense que c'est un P au pluriel, c'est hashtag P, parce qu'en fait c'est hashtag n'importe quoi de possible, de potentiel. C'est un discours de paix, c'est un discours qui est plein d'espoir, et en fait tout est potentiel dans la musique. Il y a pas de fausses notes, il y a que des notes ou des rythmes sur lesquels on peut rebondir en collectif et grandir les uns des autres constamment.
Ouais, cinq musiciens vous accompagnent sur cet album.
Au total, oui, donc trois musiciennes et musiciens sur la totalité de l'album, et 2 chanteuses sur la dernière piste.
On va peut-être écouter d'ailleurs, on va écouter ce morceau incroyable qui s'appelle Chapter 2, Chapter 2. avec justement deux chanteuses. Et vous, je crois également que vous chantez.
C'est ça.
Sur ce titre-là.
C'est ça. Normalement, il y avait une troisième chanteuse invitée.
Oui.
Qui était partante au départ et puis qui finalement n'a plus répondu. Et donc c'est là où en fait le potentiel et où le possible rentre en jeu. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas répondu parce que je n'avais qu'une envie, c'était de chanter moi-même. Donc j'ai pu le faire.
Très bien. Donc je rappelle, hein, l'album d'ailleurs est composé de 9 titres, dont 2 reprises. Celui-ci, chapter 2, avec des voix. Est-ce qu'il y a d'autres voix sur les autres titres ?
Il n'y a pas de voix chantée. Il y a ma voix parlée en fil conducteur pendant et entre les morceaux. Mais sinon, c'est le seul morceau chanté.
Très bien. On écoute chapter 2, Élie Martin Charrière.
I don't know anymore how to fathom the depth of this love, this chamber of God. Deep in your heart, body and soul, each breath I take, feeling the weight, walking between worlds, so grateful to be here.
Beauty beyond the face, after all these years of slumber, I am finally awake and I can go back. And so why do we care? There's only love that remains. Now tell me, my friend, will you stop the shame, blame game, sitting on my horse, all that I never knew I'd carry. I could dream, I could fight, learning every day to say sorry. We are all here, victor of our tales. I see your soul standing so tall in this light. Embrace your spirit. Here is no time to love, no beginning nor end. Gratitude is alive in my heart. For you, holding up
and I don't know anymore. I don't know anymore. Deep in my heart, body and soul, heart the father, the depth of this love. So grateful to be here. Away, and I can't go back. Only love that remains. Yeah, we're all here. I see your soul standing so tall. This light,
diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Nous sommes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous venons d'entendre Chapter 2 du batteur de jazz Élie Martin Charrière, toujours avec nous dans nos studios. Voilà, on continue Élie.
Avec plaisir.
Alors ce Chapter 2 avec donc deux chanteuses, hein, on vient de le dire, hein, qui est le seul titre finalement de l'album avec des voix, hein, puisque les autres titres sont plutôt instrumentaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est une ode, un hommage à la vie, ce Chapter 2?
C'est un hommage à la vie. Alors chacun a une version évidemment très particulière et singulière de la vie. Et ce Chapter 2, qui a un deuxième nom, Gratitude, donc parle de la gratitude, d'être en vie, d'être capable. Enfin, c'est je vais pas traduire les paroles une par une, mais d'être en maîtrise de sa vie, d'apprendre à naviguer dans la vie avec le privilège que j'ai eu d'être né ici à ce moment-là, de faire de la musique, d'avoir rencontré des gens qui m'ont fait évoluer et reconnaître la chance que j'ai dans cette vie. Et donc c'est un discours de gratitude envers tout ce à quoi j'ai eu accès et ce qui m'a permis de faire de la musique. Et c'est un morceau que j'ai coécrit, enfin les paroles sont coécrites avec ma compagne, voilà, qui est une poète incroyable. Alors moi, il fallait que la mélodie soit sur un certain rythme, soit sur un certain nombre de pieds, et c'était pas poétique pour elle. Donc on rentrait dans des débats évidemment d'être humain, et c'était incroyable d'écrire tout ça avec elle.
Ouais. D'ailleurs, les paroles sont magnifiques de la chanson.
Merci.
Alors, les chanteuses, justement, c'est Lou, hein, Lou Rivaille, que vous avez découvert au Festival de Crest en 2023.
Exactement, au Festival de Cré dans la Drôme. Elle jouait avec son groupe Eliavir à l'été 2023. Et j'avais été absolument bluffé et en fait, je savais pas du tout si elle était connue ou pas, parce que je connaissais son nom d'avant, et j'ai osé aller lui parler à la fin du concert pour lui demander si on pouvait travailler ensemble, parce que j'étais absolument fan de sa voix.
Et l'autre chanteuse, c'est Nirina.
Nirina Rakotomavo, ouais.
Que vous avez croisée à plusieurs reprises également.
Alors, je sais pas si je l'avais croisée avant qu'elle me propose qu'on travaille ensemble. Je joue dans son groupe en fait, et c'est un groupe et elle une personne qui a vraiment remis ma vie en question, ma vie musicale, parce qu'en fait elle compose une musique de grande écoute, dans le sens où cet été par exemple on a joué au Théâtre Antique de Jazz à Vienne, c'est-à-dire pour des milliers de personnes, et jouer de la batterie pour des milliers de personnes ou dans un club de jazz, c'est pas pareil. C'est-à-dire que je suis arrivé derrière ma batterie et en fait je ne sais pas plus, je ne sais même plus comment l'accorder. Je ne sais même plus comment jouer parce que j'ai l'habitude de jouer dans ces petits endroits, dans ces caves, dans ces clubs et une petite batterie que j'affectionne et que je pratique tous les jours. Mais jouer de la grande musique, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Et en plus, quand j'écrivais les paroles, quand je chantais, quand je pratiquais la chanson, je me disais que c'était vraiment un genre de chanson et un registre que j'avais envie de lui proposer. Donc voilà, c'était naturel pour moi d'inviter ces deux personnes-là.
Parce que la batterie, c'est très physique, hein. Je suppose qu'il faut un entraînement, bien sûr, très régulier.
Oui, comme tout, comme la cuisine, comme le vélo. Ouais, c'est très physique. C'est une pratique qui, articulairement parlant et musculairement parlant, demande beaucoup. Il y a des fois on joue beaucoup et ça va, et parfois on voyage beaucoup, on est fatigué, parfois on joue moins et on est moins endurant. Il y a plein de choses, c'est une routine comme tout.
Ouais. Alors ce nouvel album Era P, est-ce que vous l'avez joué à plusieurs reprises en concert?
On l'a joué à plusieurs reprises déjà pour la sortie de l'album c'était le 11 décembre au studio de l'Ermitage à Paris. Et j'ai eu la chance de faire une petite tournée de concert au début de l'année, du 16 au 18 janvier en Bourgogne, entre Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon. Et la musique a changé énormément dès le premier soir, dès le deuxième soir, et ensuite maintenant c'est une toute autre aventure que ça ne l'était en fait au mois de décembre.
Alors, est-ce que c'est la même composition des musiciens, le même line-up que pour l'album, flûte, oui, pareil, ce sont les mêmes?
Ce sont les mêmes. Là, on va faire une mini tournée la semaine prochaine. Il y a un concert où Nina au piano sera remplacée pour des raisons, des impératifs que la vie nous impose. Mais sinon, c'est évidemment le même line-up. Parfois, Lou nous avait rejoint pour le concert de sortie. Et pas du tout pour les concerts de janvier, on était que tous les quatre. Ça varie selon là où on joue, selon ce qui est possible.
Ouais. Donc je rappelle la composition de votre album, vous-même, Élie Martin Charrière, batterie, voix et piano, Christelle à la flûte, Nina clavier, piano, Elvin à la basse électrique, Nirina et Lou chanteuse. Le prochain concert, c'est donc lundi, hein, au Duc des Lombards. C'est une entrée libre.
Oui, absolument.
Il y a trois sets.
Trois sets. Là, c'est physique. Là, on parle de musique physique. Ouais, trois sets à partir de 19h30, entrée libre. Je sais qu'il y a deux entrées publiques. Il y en a une à 19h30 et une à 21h. Mais les gens qui veulent rester 3-7 le peuvent. Je crois qu'on ne va pas se répéter, on va jouer que la musique de l'album, de la nouvelle musique qu'on a travaillée il y a pas longtemps, quelques reprises aussi de morceaux qu'on adore, parce qu'on commence à faire ça aussi, c'est ça d'essayer de rencontrer les gens avec qui on joue aussi humainement, c'est de savoir quelle musique on a en commun qu'on pourrait jouer, des morceaux qui ne sont pas de moi, des morceaux qui peuvent être d'eux aussi. On va jouer un morceau de Christelle lundi, Christelle Raquier à la flûte.
Parce que dans l'album, il y a deux reprises.
Il y a deux reprises.
Ouais, lesquelles? Vous pouvez
Il y a une reprise absolument décalée d'un morceau de jazz très connu qui s'appelle Anthropology de Charlie Parker. Et il y a une reprise d'un morceau de Sting que j'ai énormément écouté étant petit, qui s'appelle Fragile.
Ah oui, Fragile, le fameux Fragile que vous avez bien sûr réarrangé totalement.
Réarrangé, ouais.
Alors, pour ce nouvel album, j'ai une question. Vous avez été inspiré par votre guide musical spirituel, ancien professeur, Dre Palmertz.
Dre Palmertz. Alors oui, en fait, l'idée de Era P venait d'un titre de morceau que j'avais écrit pour mon prix de master quand il était mon professeur au CNSM, qui s'appelait Tell the Era P's Dream, donc raconte le rêve de Era P. Et en fait, Tell the Era P's Dream, c'était simplement un anagramme de son nom, Dre Palmer. C'est-à-dire que c'était les mêmes lettres, mais dans un autre ordre. Et en fait, à ce moment-là, ERP, c'est une idée qui m'a parlé et que j'ai gardée. Et donc, oui, il y a un lien, mais de toute façon, depuis que j'ai rencontré cette personne, qu'il a été mon professeur et guide dans la vie comme dans la musique, cette personne est un petit peu toujours derrière ma tête. Au point où en fait je suis allé en Inde pour la première fois il y a 2 ans et à Dharamshala dans le nord et où en fait j'étais rentré dans un monastère tibétain un monastère bouddhiste et en fait j'entendais les moines chanter et ça m'a paru très étrange parce que je connaissais ce son alors que je n'y étais jamais allé et en fait c'était le monastère dans lequel il avait fait venir des moines de ce monastère enregistrer de la musique sur un de ses albums. Et donc, en fait, je connaissais ces moines sans le savoir. C'est-à-dire que notre vie se croise à plein d'endroits et c'est une personne qui m'inspire énormément, tant humainement que musicalement, spirituellement.
Ah oui, il y a des coïncidences comme ça parfois qui nous vraiment qui nous guident totalement. Oui. Et vous êtes totalement inspiré, bien évidemment, par tout ce qui vous a apporté.
Oui.
Hein, alors vous êtes originaire de la région de Chalon, Chalon-sur-Saône. Hein. Vous connaissez bien le festival de jazz de Beaune. Vous avez été au conservatoire pendant une quinzaine d'années. Conservatoire de Paris. Est-ce que vous voyez toujours vos complices du conservatoire?
Oui, alors j'ai pas fait 15 ans de conservatoire à Paris, mais ça a été un total de conservatoire entre Beaune, Chalon-sur-Saône et Paris. C'est comme une double scolarité une fois qu'on a quasiment fini l'école. Mais oui, je joue encore avec beaucoup d'étudiants avec qui j'étais. Christelle, par exemple, on a étudié, alors pas ensemble, mais au même endroit, au CNSM à Paris. On s'est rencontrés là-bas. Je joue notamment beaucoup en trio avec Marc Prior, qui est un pianiste incroyable, et Juan Villarroel. On s'est tous les trois rencontrés au conservatoire aussi. Donc oui, c'est une génération, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est rencontré, qu'on est dans cet endroit d'excellence entre guillemets qu'est le conservatoire, c'est que musicalement on a certainement beaucoup de choses à se dire, et donc c'est une aventure qui dure depuis.
Ouais. Et donc là, c'est un nouveau projet, hein, RAP, on en parlait tout à l'heure. Comment vous est venu ce déclic finalement pour vous lancer dans une autre aventure?
Eh bien, c'est une lettre de motivation pour la Spedidam, Génération Spedidam, qui est un dispositif envers les artistes émergents ou moins émergents. Et en fait, en écrivant ma lettre, j'ai promis, et je me suis promis à moi-même, de créer un nouveau groupe, un nouveau projet, de la nouvelle musique. Et comme j'ai été lauréat de cette Génération Spedidam, eh ben, il y a un créneau de concert au festival Jazz Sous les Pommiers. Le directeur Denis Lebas m'a appelé pour que j'y joue, et donc ça a été là où j'ai proposé le premier concert de ce groupe qui n'existait pas encore, avec de la musique qui n'existait pas encore, et donc ça m'a lancé.
Et vous avez joué, là vous étiez présent à Jazz Sous les Pommiers 2024?
Pas 2024, c'était en 2023. C'était au mois de mai 2023 au Magic Mirror, ce beau chapiteau. C'était le premier concert de ERP, pas encore avec Elvin Bironien à la basse, mais il y avait déjà Nina Gatt au piano et Christelle Raquier à la flûte.
Merci, merci beaucoup Élie Martin d'être venu parmi nous. C'était très agréable de vous avoir en studio. Donc je rappelle, vous serez au Duc des Lombards lundi à 19h30.
Oui.
Et votre album ERP vient de sortir. On peut se le procurer un peu partout?
Alors, on peut l'écouter un petit peu partout. Il n'y a pas de distribution physique pour des considérations qui nous sont propres avec le label. En fait, on peut les trouver en fin de concert. C'est-à-dire que si on vient me voir en concert, j'ai des exemplaires avec moi pour les vendre, les dédicacer sur place. Mais on peut l'écouter partout, que ce soit sur YouTube, sur malheureusement Spotify, mais Deezer, Tidal, Qobuz, toutes les plateformes.
Très bien. Donc, ERP avec Élie Martin Charrière à la batterie et vos 5 musiciens. Vous serez donc lundi au Duc, le 25 mars à Salon de Provence, le 28 mars à Aix. Merci beaucoup.
Merci Agnès, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
IDFM Radio, 98 FM.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Nous allons maintenant parler festival. Premier festival à Enghien, la tête, la première au Centre des Arts d'Enghien. Ce sera dans 15 jours, hein, les 3 et 4 avril. Et je reçois Sophie Richard. Bonsoir.
Bonsoir.
Sophie Richard, responsable musique et du numérique lab au Centre des Arts d'Enghien. Et Véronique Hulin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de la programmation jeune public et du théâtre, et nous allons parler toutes les trois de la tête, la première. Alors, c'est un festival tout à fait inédit, avec des DJ sets, des concerts, de la danse, du théâtre, du cinéma. Ça commence donc jeudi 3 avril à 19h, c'est la première édition. C'est tout à fait innovant, avec les performances sont originales, multiples. Sophie Richard, il y aura un dispositif particulier. Vous nous expliquez ?
Oui, alors on avait vraiment ce souhait de présenter toutes les disciplines du CDA sur ces deux soirées. On avait cette envie de proposer des performances sous forme de déambulation. Donc, on aura des concerts qui auront lieu dans le hall, ainsi que des performances dansées, également au troisième étage dans nos différents studios. Donc, il y a vraiment cette volonté pour que le public circule dans le CDA comme ça n'avait pas été fait jusqu'à maintenant.
Donc, pas de gradins, pas de scène.
Alors, quand même des petites scènes, il faut que le public puisse voir les performances, mais il y a vraiment cette volonté d'immersion et que le public soit très proche des artistes.
Alors, racontez-nous, donc jeudi 3 avril à partir de 19h, le bar Bichette, cabaret, pardon, avec de la poésie, des rencontres éphémères, mais ça donne vraiment envie, hein. Qu'est-ce que c'est le bar Bichette cabaret? Ce sont des comédiens?
Oui, alors, c'est une troupe qui a été imaginée par Monsieur K, qui a longtemps été le directeur artistique du cabaret Madame Arthur à Paris, et qui, avec son équipe d'artistes, va nous proposer une épopée, une célébration artistique unique, avec une réflexion sur notre société, et il va essayer de nous prouver que le divertissement peut être à la fois intelligent et salutaire à travers des performances dansées, chantées, du théâtre.
Alors ensuite, il y aura le duo Horos. Là, c'est une pop alternative avec des sonorités brutes.
Tout à fait. Le duo Horos est un groupe en développement qui explore le passage à l'âge adulte, l'amour, l'émancipation, dans une pop qui mêle le français et l'espagnol. Et c'est vraiment un groupe en devenir. Ils ont fait un trabendo à Paris au mois de février. Ils ont sorti leur nouvel album Oui Futur avec un très bon retour de la presse. Et voilà, c'est un concert que j'attends avec impatience. Ouais.
Alors comment ça se passe? Est-ce que toutes les performances, tous les spectacles sont au même moment?
Non.
Ou dans différents lieux?
Ils vont être dans différents espaces, sachant que le public aura la possibilité de voir toutes les performances. C'est vraiment cette idée de déambulation qu'on a voulu mettre en avant, en permettant au public donc de voir le cabaret La Barbichette, puis les concerts, DJ set, cinéma, théâtre. Donc voilà, ils pourront tout voir.
Tout voir, c'est pas forcément au même moment, tout n'est pas à 19h.
Exactement, c'est ça.
Très bien. Et il y a ce fameux concert Calling Marianne. Alors là, ça va être carrément de la techno trans acide.
Oui, c'est ça. Calling Marianne va clôturer la première soirée, donc du jeudi 3 avril. C'est une productrice qui a été entendue pendant les Jeux Olympiques sur la performance de Simone Biles, la gymnaste américaine, sur son passage au sol. Donc oui, en effet, elle propose une musique techno avec des mélodies entraînantes et des harmonies nostalgiques. Donc c'est pour permettre au public de danser après avoir vu toutes les différentes performances danse tout au long de la soirée.
On a une idée de l'horaire déjà pour ce concert-là, Calling Marianne?
Oui, ça sera la dernière performance, donc ça sera aux alentours de 22h.
Et quel est son nom? Son nom d'artiste, c'est Calling Marianne.
Son nom d'artiste, c'est Calling Marianne, tout à fait.
Très bien. Et ce sera dans quel lieu, ce concert?
Vous la retrouverez dans le hall du CDA.
D'accord. Alors, comment ça se passe pour les billets? Est-ce que les auditeurs peuvent déjà prendre leurs billets? Je crois qu'il y a un pass hein, sur les deux jours.
Tout à fait. Nous avons un pass pour le jeudi et le vendredi, qui donne accès, bien évidemment, à tous les spectacles. Et il y a aussi des passes à la soirée. Donc voilà, si vous préférez être là le jeudi et pas le vendredi, et vice-versa.
On peut prendre juste le jeudi. Et quel est le tarif d'entrée?
Le tarif d'entrée est de 16€.
16€.
Et le pass de jour est à 30€.
Ouais, donc c'est vraiment très très raisonnable.
Tout à fait.
C'est formidable. Hein. Donc de 19h à 22h30, 23h.
Même plus tard.
Même plus tard.
Même plus tard. Le CDA fermera à minuit.
Minuit. Et est-ce qu'il y a une restauration légère sur place?
Tout à fait. Nous avons un bar qui fait une petite restauration tout au long de la soirée.
Très bien. Véronique Hulin, vous êtes également avec nous. Vous êtes donc responsable de la programmation jeune public et théâtre au CDA. Alors, pour ce festival, La Tête la Première, il y a également une programmation pour le plus jeune public ou théâtre?
Non, il n'y aura pas pour le jeune public là, parce qu'il n'y aura pas pour le jeune public.
Mais pour le
théâtre, il y aura notamment donc la Barbichette dont a parlé
oui,
Sophie.
Oui, tout à fait, le jeudi, formidable.
Voilà, et le vendredi, il y aura Ognio. Ognio.
Oui.
Ça va être, on va vous proposer une bulle apaisante dans la soirée. On va vous inviter à plonger dans une aventure sensorielle et poétique unique qui va mêler du son spatialisé, des lumières interactives et un récit immersif. Donc le public va être confortablement installé et on va les inviter à fermer les yeux, à mettre un casque et se laisser transporter dans des paysages sonores fantastiques.
Ah, c'est formidable. Ça donne vraiment envie. C'est le vendredi. À partir de quelle heure?
Alors ça, c'est ce spectacle-là sera de 19h à minuit, toute la soirée, par toutes les demi-heures. Il y aura des groupes de 15 personnes qui pourront entrer et vivre cette expérience.
Et ça s'appelle Les Gardiens de la Montagne.
Ça s'appelle Les Gardiens de la Montagne. Voilà.
C'est un peu le pouvoir, c'est ça, de nos montagnes, le langage de la roche, la montagne est sensible et minérale.
Oui, le récit va commencer. Vous allez être en haut de cette montagne mythique et au fur et à mesure, vous allez ressentir et être au plus près des battements de cœur de cette montagne.
Alors, est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est
non,
de la
il n'y a
musique?
Aucune vidéo, c'est vraiment du son spatialisé. Le son spatialisé, c'est une technique audio qui va permettre de créer une impression de son en trois dimensions. Donc, le son va vraiment circuler autour de l'auditeur. Il va avoir l'impression que le son vient de derrière lui, d'en dessous, d'au-dessus. Et donc, en fermant les yeux et en plongeant dans cette immersion avec son casque, on a vraiment l'impression de vivre dans cette bulle un récit fait pour nous en étant avec les autres dans cette immersion.
Mais là, il n'y a pas de musicien. Hein.
Non, il n'y a pas de musicien.
D'accord, c'est que de la musique finalement numérique.
C'est l'enregistrement, oui, c'est un son.
Très bien. Et donc ça, c'est le vendredi 4 avril. Vous disiez oui. À partir de 19h, hein, mais il y a plusieurs sessions. Hein, c'est
Il va y avoir des sessions toutes les demi-heures. Ça va commencer à 19h30. Il va y avoir une session à 19h30, 20h, 20h30, toutes les demi-heures. Et les gens pourront s'inscrire en arrivant directement au Centre des Arts à raison de 15 personnes par demi-heure. On pourra accueillir.
Très bien. Et vous avez déjà des réservations?
Oui.
Pour le festival, déjà
oui.
Un certain nombre de personnes.
On a déjà des réservations, des gens qui sont curieux de justement venir découvrir le CDA autrement que dans la salle de l'auditorium où ils ont l'habitude de venir voir les spectacles. Et donc voilà, comme disait ma collègue Sophie, on avait à cœur de montrer de nouveaux espaces aussi que le public n'a pas obligatoirement la possibilité de voir en temps normal.
Sophie Richard, je rappelle, hein, vous êtes responsable de la musique et et du Numérique Lab au Centre des Arts, qui est très important. Je rappelle, c'est une scène conventionnée hein, d'intérêt national. Événement majeur également de ce festival, c'est les courts-métrages de l'école Artefix.
Oui, tout à fait. Nous travaillons tout au long de l'année avec les élèves d'Artefix. C'est mon collègue Jean-Paul en charge du cinéma qui travaille avec eux. Et toujours dans cette idée de créer des liens avec le public et aussi avec nos partenaires, on a eu ce souhait de présenter des courts-métrages des élèves d'Artefix sur les deux jours de festival à différents endroits du CDA.
Très bien, donc tout ne sera pas dans la même salle, dans l'auditorium, pour ces courts-métrages.
En effet, les courts-métrages seront diffusés tout au long de la déambulation dans les différents espaces qui vont amener du hall jusqu'au studio qui se situe au troisième étage. Donc le public aura la possibilité, dans sa déambulation, de faire des pauses et de découvrir ces différents courts-métrages.
Très bien.
Tout au long de la soirée.
Oui, je pense à celui de 2024, entre eux deux. Vous les avez vus, les courts-métrages, ou pas encore?
Pas encore, je n'ai pas eu cette chance et je suis pressée de les découvrir dans 15 jours.
Ouais, ouais, Time's Down de 2020, Pitura de 2024. Ce sont en général des courts-métrages de quelle durée?
Alors, ça dépend des courts-métrages. On peut en avoir de 5 minutes et d'autres qui sont un petit peu plus longs, sachant que, bien évidemment, on reste dans le format court-métrage. On n'aura pas de film de plus de 20 minutes, par exemple.
Ouais. Et donc, tout ça est compris, bien évidemment, dans le billet, le billet à 16 €, finalement.
Tout à fait.
Pour la soirée. Un petit mot, quand même, sur cette école, Artefix, hein. Sophie Richard, donc, consacrée, première école, dans la catégorie effets spéciaux, carrément. Première école mondiale. Elle a été elle a eu ce prix par une plateforme, hein, la plateforme The Rookies, qui est une plateforme d'étudiants, d'étudiants spécialisés en animation, jeux vidéo. Donc cette école Artefix, c'est formidable que vous ayez un partenariat avec eux.
Oui, bien sûr, et le lien est d'autant plus important. Car nous accueillons et nous organisons le PIDS en janvier. Donc c'est le festival d'effets spéciaux. Donc ça faisait sens qu'on retrouve Artefix au CDA dans le cadre de La Tête la Première.
Comment s'est passée la sélection pour ce premier festival La Tête la Première? Est-ce que, Sophie Richard, vous y avez participé à la sélection des performances, des artistes, des musiciens?
Bien sûr, j'ai proposé la partie musique sur ces deux jours. C'était vraiment un échange entre chargés de mission. C'était vraiment une discussion entre nous pour mettre en avant des projets qui nous tiennent à cœur et aussi des projets qui pouvaient se répondre. Les performances dansées que l'on va avoir sur le jeudi et le vendredi. Il y a la compagnie Etra Intro et également Carmel Luanga avec l'ivresse des Lucioles. Ce sont des performances qui répondent tout à fait aux propositions musiques qui auront lieu aussi sur ces deux jours. Et avec Véronique également, c'était une discussion pour Ognio et s'assurer que ça correspondait à un peu à la direction artistique souhaitée sur ces deux jours. Donc toutes les performances se répondent d'une certaine façon.
Véronique, vous également, vous avez participé à la sélection de tous ces artistes?
Oui, ben moi je me suis occupée surtout, enfin essentiellement de la partie théâtre. Et pour ma part, je cherchais des formes qui sortent un peu du rapport scène-spectateur en frontal. Et donc voilà, c'est ce qu'on propose avec la Barbichette en déambulation et avec Ognio dans des formes qui sont peu courantes quand on se dit qu'on va voir un spectacle de théâtre.
Le vendredi, est-ce que vous avez un événement un peu phare, bah Véronique ou Sophie, pour le vendredi? J'ai vu qu'il y avait Claude, le fameux concert.
Oui, tout à fait. Claude est un tout jeune artiste. Il n'a que 24 ans. Il est dans une esthétique chanson. Il a un côté assez mélancolique et pourtant très dansant. Donc je vous invite vraiment à découvrir cet artiste. Il a fait une cigale complète et un Trianon complet ces derniers mois. Donc vraiment un artiste très attendu au CDA.
Chanteur. Tout à fait. Il sera accompagné de musiciens,
oui,
ce soir-là.
Exactement. Un batteur et un claviériste.
Il est plus dans la techno, l'électro, la pop.
Alors c'est tout se croise. Il est vraiment chanson, il écrit ses textes, il a une très belle écriture et les rythmes sont assez électro-pop. Voilà.
Très bien. Donc ce sera le 4 avril, le vendredi, Claude. On connaît déjà l'horaire?
On découvrira l'horaire.
On découvrira. De toute façon, chers auditeurs, vous pouvez regarder bien évidemment tout le programme sur le site du Centre des Arts d'Anguin et prendre déjà vos billets. Un mot sur l'exposition. Véronique, je crois qu'il y a une exposition en parallèle justement qui sera visible pendant le festival.
Oui, donc actuellement au Centre des Arts, vous avez l'exposition « Le cinéma en trompe-l'œil ». Et pour ce festival, l'exposition restera ouverte exceptionnellement en nocturne, donc toute la soirée. Donc vous pourrez venir la découvrir. Cette exposition met à l'honneur le matte painting. Le matte painting, pour en parler de manière plus simplifiée, sont des grandes peintures très détaillées qui servent de décor, de fond pour un décor. Et donc dans cette exposition, on met à l'honneur le matte painting et c'est une technique utilisée au cinéma pour créer des décors réalistes qui n'existent pas. Et donc cette technique trompe notre œil, trompe notre regard. Et donc à travers cette exposition, vous allez découvrir des maquettes, des extraits de films ou encore des secrets de tournage. Et vous allez vivre une immersion fascinante dans l'envers du décor du cinéma.
Ah oui. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des décors de cinéma vraiment qu'on peut voir
Il y a une reconstitution du studio de Michele Pengrazio, qui est le matte painter qui est mis à l'honneur dans cette exposition. Il y a une reconstitution donc de son studio. Il y a aussi une reconstitution d'une création d'un matte painting sur verre avec les caméras, notamment une caméra qui a servi au tournage pour un des films d'Hitchcock.
Très bien. Donc, exposition sur le cinéma en trompe-l'œil au Centre des Arts d'Anguin. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'être venues en studio parler de cette première édition du festival La Tête la Première, le 3 et 4 avril. Merci à vous et on vous retrouve donc jeudi dans 15 jours.
Oui,
au Centre des Arts.
Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, toute la culture que j'aime, séquence, exposition. Donc je continue dans ma découverte des lieux insolites présentant des expositions. Je me suis rendue au Maïf Social Club, rue de Turenne à Paris. C'est un lieu de vie et d'expérience dédié à l'art et à la culture qui propose tout au long de l'année vraiment une programmation très riche autour de l'art, du spectacle, des débats, des rencontres, des ateliers pour petits et grands. Ce lieu est vraiment très agréable. Il comprend une boutique, un espace de coworking, un café-boulangerie, un espace pour la lecture. L'exposition du moment est Chaosmos. Chers auditeurs, nous allons partir dans le cosmos à travers la vision de 12 artistes qui vont nous raconter le cosmos, la fois le chaos et le monde ordonné. Voilà, et je reçois donc Marie Jacquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes donc médiatrice au Maïf Social Club.
Oui.
Donc c'est vous qui organisez les visites de cette fameuse exposition Chaosmos. Alors le lieu, tout d'abord, Marie, est entièrement géré par la Maif, hein, que l'on connaît, cette mutuelle d'assurance. Pour au départ pour les instituteurs, le lieu a été créé il y a quelques années, hein.
Oui, on a 7 ans maintenant, l'âge de raison.
2017.
Le lieu a effectivement été créé il y a 7 ans. L'idée, c'était d'incarner physiquement dans un lieu toutes les valeurs de la Maïf, notamment d'écologie et de vivre ensemble, et d'échanger avec les visiteurs sur ces valeurs et sur ces sujets qui nous intéressent à travers une programmation, effectivement, comme vous le disiez, culturelle, exposition, spectacle, débat, rencontre.
Ce que je trouve incroyable, c'est qu'autour de cette exposition qui dure 6 mois, hein, jusqu'en mois de juillet, exposition Chaosmos, il y a un nombre d'événements gratuits, ouverts à tous, que ce soit des ateliers, des débats, ateliers vraiment, mais de toutes sortes, hein, gustatifs, musicales, compter, voilà. Vous faites toujours ça, c'est-à-dire que vous avez une exposition qui dure 6 mois et du coup vous avez toute une année autour de cela.
Alors on a une programmation effectivement qui a la particularité d'être thématique. À chaque fois on choisit un sujet qu'on va explorer pendant effectivement 6 à 9 mois. L'idée pour essayer d'embraser ce sujet de manière un peu complexe, c'est qu'on va inviter plein de gens à participer. Il y a donc effectivement l'exposition qui est toujours une exposition collective avec une douzaine d'artistes effectivement. Et puis comme autant d'autres regards sur ce sujet-là pour complexifier un peu notre propos, on va inviter des compagnies de spectacles vivants, on a aussi des complices qui viennent faire des ateliers, que ce soit la chef cuisinière Lila Djedi, les savants fous des inventeurs. Et l'idée à travers ça, c'est de pouvoir proposer plein de formats différents pour que, en fonction des centres d'intérêt des gens, on trouve toujours une porte d'entrée. Voilà, donc c'est pareil, les visites, on en a inventé des formats très différents, les visites gustatives, les visites musicales, les visites comptées, et on essaye comme ça de s'adresser à tout le monde. Et on a effectivement fait le choix pour que ce projet puisse accueillir tout le monde, de proposer une programmation gratuite. C'est pas le seul frein à l'accès à la culture, mais c'en est un. Et donc du coup, voilà, en proposant toute notre programmation gratuitement, on accueille des gens curieux et parfois éloignés de la culture ou pas. Mais en tout cas, on fait un brassage de public avec des centres d'intérêts divers, mais des valeurs communes.
Formidable. Revenons. Alors un mot sur cette exposition qui est visible au Maïf Social Club à Paris. Donc 12 artistes, hein, chaque œuvre. Alors une œuvre par artiste. Hein, chaque œuvre est singulière et nous parle du cosmos. C'est une manière de voir évidemment l'univers, mais également une manière de parler de notre vie sur Terre.
Oui, tout à fait. Quand on a commencé à imaginer l'exposition, on s'est dit comment est-ce qu'on peut recréer un sentiment d'appartenance, l'envie de préserver cet espace partagé qu'est notre planète Terre, à l'heure où plein de gens commencent à évoquer la possibilité d'une planète B si on épuisait les ressources de notre planète. Nous, on a voulu prendre le sujet à rebours et en même temps, pour mieux s'observer ici et maintenant, on propose de faire un détour par l'espace. C'est comme si on faisait un pas de recul pour observer finalement notre planète dans cet univers si vaste et se rendre compte de sa fragilité, de ses limites et susciter chez nos visiteurs l'envie de la préserver.
Oui, alors toutes les techniques sont représentées, broderie, des sons, des photos, des sculptures, ce tissage de fil de cuivre, une météorite, un bout de météorite, des briques, des déchets électroniques. Je pense justement à cette œuvre, l'homme robot, par deux artistes de la République du Congo, la République démocratique du Congo. L'homme robot parle aussi de notre lien à la Terre.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs lui qu'on a choisi pour illustrer notre séquence de programmation. C'est le Space Walker de Congo Astronaut, qui est un collectif d'artistes qui vit à Kinshasa. Et ce costume est effectivement fait d'une multitude de déchets électroniques. C'était évidemment important pour nous d'évoquer le rapport à la Terre, et justement on en parlait, cette vision un peu d'aller coloniser des nouveaux territoires, porter aussi un regard sur ce qui a été fait dans l'histoire et sur Terre, même actuellement, de tous ces déchets électroniques qui sont renvoyés en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Inde, et comment finalement ce progrès qu'on nous vend tant, qui naîtrait de nouveaux outils, crée le désordre et le chaos sur Terre.
Oui, je pense également à cette œuvre avec 250 enregistrements finalement de bruit, de sons d'abeilles, qui nous parlent du rôle de la biodiversité.
Bien sûr. Ça, c'est le travail de Félix Blum, qui est un artiste qui travaille le son. Il fait du field recording, il enregistre les sons de la nature, des sons qui nous environnent tous, mais lui, il prête une attention particulière. Et il a enregistré, en créant un mini studio d'enregistrement pour abeilles, il allait enregistrer 250 abeilles. Et c'est vraiment l'idée, voilà, de se remettre aussi à l'écoute du vivant qui nous entoure. On a tendance à mesurer les choses à l'échelle de notre humanité, mais on est environné par le vivant. Et l'abeille était pour nous un symbole, évidemment, assez représentatif de ce chaos et de ce cosmos, puisque c'est le symbole de la beauté et de l'ordre depuis des millénaires. Et c'est maintenant devenu, malheureusement, le symbole de l'effondrement d'une biodiversité mise à mal, notamment par l'usage des pesticides.
Oui. Chers auditeurs, je vous laisserai aller découvrir, bien sûr, tous les artistes de cette exposition Kaosmos au Maïf Social Club, vu qu'ils sont 12 artistes. Quelques dates, peut-être, des visites que vous proposez, Marie. Je vois qu'il y a une visite gustative le 24 avril. On a un peu le temps.
Ouais, on a des visites gustatives une fois par mois avec la chef Lila Djedi. On a tous les samedis des visites pour les tout petits en matinée, pour les adultes vers l'heure du déjeuner, et puis pour les familles l'après-midi. En l'occurrence, demain matin à 11h30, ce sera une visite musicale qu'on mène avec Clara Germont, qui est violoncelliste, et qu'on invite à prendre la parole avec nous et à faire résonner des pièces musicales avec les œuvres de l'exposition.
Oui, formidable. Donc visite en musique demain, enfin tous les samedis à 11h, et visite comptée le vendredi.
Alors, c'est pas tous les samedis les visites musicales, mais c'est pareil, c'est un rendez-vous qui revient généralement une à deux fois par mois, et les visites comptées aussi assez régulièrement, qui sont faites avec un duo de conteuses assez formidable, et qui les font pareil pour les tout petits à partir de 2 ans, pour les familles, mais aussi pour les adultes.
Très bien. Merci beaucoup. Merci, Marie. Les auditeurs peuvent s'inscrire sur le site pour toutes ces visites et ateliers.
Tout à fait. Toute notre programmation de spectacles et d'ateliers se fait sur réservation depuis le site maifsocialclub.fr. Et puis après, le lieu est ouvert du lundi au samedi toute la journée pour venir découvrir l'exposition librement.
D'accord. Et venir également en espace coworking ou en endroit de lecture. Merci beaucoup, Marie, d'avoir répondu à cette interview, donc, pour le Maïf Social Club, rue de Turenne à Paris. Au revoir.
Au revoir, bonne soirée.
Bonne soirée. L'émission Toute la culture prend fin. Je vous retrouverai donc avec plaisir vendredi 4 avril. Et vendredi prochain, le 28, vous retrouverez Marie-Laure. Bonne soirée.